Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non? Hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non?
38 par 3, ça doit faire 114. Non, je calcule vite. Matière préférée, c'est les maths. Je suis un matheux.
Et la Dream Team DRC. Non, j'ai arraché.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là, comme tous les soirs, jusqu'à minuit sur RMC. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Avec ce soir, Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
De Stéphane Guy est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Non, j'avais Florent Gautreau sur ma fiche, tu vois. Ouais, je fais des copies-collées d'intro.
En même temps, il y a ta fiche.
On a switché.
Mais il est juste à côté de toi.
Vous avez switché.
Il y avait juste un regard à faire sur le côté droit qui ne ressemble pas du tout à Flo Gautreau.
Tout à fait. Non, même comme ça.
Même de dos, en fait.
Même de dos.
Ouais.
Beaucoup plus mince, beaucoup plus svelte, Stéphane, que Flo Gautreau, évidemment.
C'est pour dire, ne te fie pas à la feuille.
Ça, c'est l'avantage des pulls Saint-James, parce qu'on a la collection soir après soir. Voilà. Bonsoir, mon cher Stéphane. On va débriefer, bien sûr, ce soir, la victoire de l'équipe de France face au Chili, 3-2. On va faire un tour d'Europe aussi pour évoquer les derniers qualifiés pour l'Euro, même s'il en manque un sur trois. On va dans un instant pour la deuxième part de la prolongation entre le Pays de Galles et la Pologne. Paulo Breitner sera avec nous pour le débrief d'Allemagne. Pays-Bas, victoire allemande 2-1. Et Julien Laurence avec nous pour justement ce Pays de Galles-Pologne. Et on parlera aussi de la Géorgie de Willy Sagnol, qualifiée pour la première fois de son histoire à une compétition internationale, en l'occurrence l'Euro 2024. Vous nous appelez au 32-16.
C'est une sacrée perf. Et j'ai vu la fin du match. C'était incroyable. C'est dément.
À Tbilissi, envahissement
terre. Un pays qui a jamais participé à une compétition, à être heureux comme ça, vraiment, c'était des grands moments. Et ça me fait plaisir pour Willy. Qui, depuis qu'il est là-bas, n'a fait que faire progresser cette équipe.
Ouais, en 3 ans, il a qualifié la Géorgie pour l'Euro 2024.
Ouais, magnifique, vraiment.
Vous nous appelez au 32-16 pour agir au match des Bleus. La victoire 3-2 face au Chili. Je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Mais vous venez, vous commentez, vous abonnez également. Envoyez-nous vos commentaires. N'hésitez pas à le faire. C'est parti pour l'After. Jingle 3 points, s'il vous plaît.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel.
Le premier point, ce sera une victoire, ok, mais je vois pas une équipe de France totalement rassurante. Pourquoi? C'est le point 2. Je trouve que la défense, le milieu, ça reste un peu un chantier. Je vois pas trop quelles sont nos intentions de jeu. Alors évidemment, Griezmann devrait apporter un peu plus de lumière. Derrière, la charnière centrale, ça me semble pas du tout assez solide, en tout cas pour l'instant. Et puis en plus, il n'y a pas d'arrière-droit. Et enfin, le troisième point, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Mbappé rater 2 matchs de suite. À ce point transparent, à ce point mauvais, dans ses choix, dans tout ce qu'il fait, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Sur ces 2 matchs, il est inexistant. Pire, désintéressé. Ça, c'est pire, en fait. Parce que mauvais, déjà, ça ne lui arrive quand même pas souvent, mais désintéressé, ça veut dire que même des fois, il arrive à être mauvais sans. Et il met quand même un but. Tu vois, ça, quand même, il te rappelle qui il est. Mais là, mauvais, inexistant, il court pas, il est pas, comme s'il n'est pas intéressé par ce qu'il fait. Ça, c'est un peu plus problématique quand même.
Stéphane.
Oui, c'est 2 matchs au final qui servent pas grand chose, qui nous apprennent pas grand chose.
Ah, si, mais ils apprennent de pas mal de faiblesses, moi je trouve.
Oui, mais enfin,
même.
Moi j'arrive pas à être inquiet suite à ces matchs-là. Il y a peut-être des motifs d'inquiétude, mais pas liés forcément à ces matchs-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Fallait quand même gagner ce soir. Il y a un joueur qui, il y a un ou deux joueurs qui ont marqué quelques points quand même. Enfin, en tout cas, qui ont garanti, sans doute assuré leur place dans la liste de Deschamps. Je pense évidemment à Fofana et Kolo Muani, même s'il n'y a pas un énorme suspense les concernant, mais je pense que Kolo Muani notamment a attrapé le billet pour l'Euro.
Deux joueurs qui ont attrapé leur billet, qui honnêtement, ils font un gros match, mais c'est pas des joueurs qui me transcendent.
Non, non.
On en parlera après. Ils vont relever la nuit quand même. Hein.
Voilà. On en parlera après de ces deux-là. Vas-y.
Voilà. Et puis le troisième point, c'est le côté fraîcheur. Alors, quand vous avez une nation sur deux européenne qualifiée pour l'Euro, évidemment, les qualifications sont moins compliquées à obtenir. Enfin, c'est chapeau à la Géorgie, chapeau aussi à l'Ukraine. Voilà. C'est évidemment un moment important pour l'Ukraine que dans cette période-là de l'actualité de leur pays et de la vie de leur pays, surtout pas de l'actualité, mais de la vie de leur pays, d'être qualifié pour l'Euro.
Voilà pour les trois points de Stéphane et Daniel qu'on va développer ce soir. Tiens, d'abord le direct, hein, c'est les dernières minutes du match Pays de Galles-Pologne pour le dernier ticket pour l'Euro 2024 avec Johan Bredov qui suit ce match. On est où, mon cher Johan?
On est dans la prolongation, encore 12 minutes à jouer dans cette prolongation 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne. C'est pas un beau match, monsieur, qu'on suit à Cardiff. Mais voilà, il y a deux grosses occasions, un arrêt splendide d'abord de Chesney à la 49e et une frappe de Piotrowski, le Polonais, qui est passé juste à côté de la lucarne gardé par Ward, mais sinon rien d'autre. 0-0, donc encore 12 minutes à jouer dans cette prolongation entre le Pays de Galles et la Pologne.
Le qualifié de ce match sera dans le groupe de la France, bien sûr, dans le groupe D avec les Pays-Bas et l'Autriche. Je rappelle que la Géorgie qualifiée est dans le groupe F, Turquie, Portugal, République Tchèque, et que l'Ukraine rejoint le groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie, beaucoup de pays de l'Est qualifiés pour cette Euro 2024. Effectivement, on a plus de sélections. Alors l'équipe de France, les gars, d'un côté à ma droite, on a Stéphane qui me dit qu'on n'apprend rien de ces deux matchs. Daniel me dit qu'il tire quand même des enseignements. Tu veux surtout pointer les faiblesses ce soir, Daniel.
Enseignement.
Tu disais en même temps hier soir qu'on n'allait rien apprendre de ce match non plus.
Enseignement, ça ne veut pas dire que ça m'inquiète. Enseignement, ça ne veut pas dire que je suis inquiet, que l'équipe de France fera rien à l'Euro quand elle sera au complet avec Griezmann notamment. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je vois des matchs où je continue de trouver que la production d'ensemble est faible. En plus, avec le débat qu'on a eu hier soir sur le niveau technique de nos bleus au sens large, quand tu vois le début de rencontre, que tu vois la façon dont ils se font balader justement techniquement, que tu vois la sortie de balle des Chiliens, les 1-2, les trucs de base qu'on aime voir dans le football, et te dire que nous, ça, on le fait jamais. Et que tu prends un premier but, on a l'impression que c'était les CM2 qui giflaient les CM1 dans la cour d'école. En fait, c'est énervant de voir que notre équipe de France... Ben en fait, elle ne sait pas jouer ce football-là. Ça l'empêche pas de gagner. On en a débattu hier pendant une heure. Elle a des résultats comme ça. C'est une habitude. Mais comme on venait d'avoir ce débat, qu'on avait beaucoup parlé de ça, de voir que pendant 7 minutes ils touchent pas le ballon et qu'au bout de ces 7 minutes ils prennent un but comme ça, ah tu te dis ouais c'est chiant quoi, c'est pénible. Bon alors après tu regardes la compo où ils sont en ce début de match. Après les Chiliens, c'est physiquement ils ont vite baissé. C'est plus le Chili d'il y a 10 ans. Donc tu regardes, tu dis bon allez ok. Les côtés, c'est quand même des latéraux qui montent, qui peuvent donner du mouvement à l'équipe. T'en as un qui se blesse très vite. Donc, tu mets un arrière-droit qui n'est pas un arrière-droit. Et encore une fois, on répétera, il fera avec la meilleure volonté du monde, Koundé. Mais ce sera un problème. La charnière centrale, donc déjà, pour ressortir des ballons, il faut des joueurs un peu techniques. Mais bon, moi, Saliba, c'est mon préféré des défenseurs centraux qu'on a à disposition. Mais comme il n'est pas titulaire...
Préféré Deschamps, hein.
Ouais, je sais. Comme il n'est pas titulaire, ouais, mais tu le vois
vraiment
avec
pas,
Arsenal dans un autre football.
Ouais, mais bon.
Dans un autre football, c'est pas la même chose, tu vois. Mais le problème, c'est que dans le football qu'on pratique, bah peut-être que Saliba, il n'est pas fait pour les Bleus. Dans le football estampillé 3F avec le tampon. Bon après, ou pas Mécano, Konaté, ça leur arrive de faire des matchs où ils sont monstrueux physiquement, machin et tout. Mais bon, tu vois, c'est pas, tu vois, s'ils ont pas des pieds en or, hein. Après, t'ajoutes à ça le milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, Kamavinga, où en création, on est en déficit. Tu vois, je dis pas que c'est quand on en banque, il est dans le rouge, quoi. Mais bon, c'est un compte en banque, il y a pas beaucoup de thunes, hein, en termes
et
de
encore,
création.
Et encore, Fofana a pris quand même une autre dimension.
Ah ouais, et donc, ouais, ok, ouais.
À ce poste-là. Ouais.
Non, mais le pire, c'est que t'as pas tort.
Non, mais c'est pas ta sensibilité.
Il a pris de la dimension, ouais. Mais comme il partait d'une petite dimension, il partait de la taille S, tu vois. Il est pas encore au XL, hein, il est vraiment à peine OM, hein, là, hein, tu vois.
Enfin, Bernardo Silva, certes.
Mais... Ah, voilà, voilà. Mais... Non, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, ce football-là, moi, j'ai. Bon, ça fait 3 jours qu'on en parle, mais c'est un peu bizarre.
Non, c'est pas 3 jours, Daniel. Ça fait 11 ans qu'on en parle.
C'est vrai. Non, mais t'as raison. Et bon.
C'est 11 ans qu'on fait les mêmes débats, quand même, depuis la nomination de Deschamps à la tête de l'équipe de France.
Mais non, mais il y a du Deschamps dedans. Mais
il n'est pas responsable des carences de notre niveau technique.
De nos joueurs, de notre football, voilà.
Daniel est avec nous ce soir dans l'after. Bonsoir,
là,
Daniel.
Je
commence à bien le connaître. Je savais qu'il allait. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, Nico.
Ah, donc, il y en a un autre.
Stéphane, t'as pas le monopole, il y en a un autre. Quel âge, Daniel?
Quel âge tu as? Il a 31 ans, Daniel. Et à chaque fois, c'est la même question. Ta mère était fan de moi. Non, Daniel Balavoine. Voilà, à chaque fois, je rive.
Daniel, il se répète, il rappelle jamais ses blagues.
Tu sais où il est, Daniel Balavoine, quand même?
À Alençon.
À Alençon, ouais.
Ah, voilà. Bien sûr. Vous le rappelez.
Très bien.
On a quand même Or Elsan et Daniel Balawan.
Faut le rappeler, je ne le savais pas.
Ah oui. Mais de toute façon, on a raison. Est-ce qu'on a besoin de parler de football ce soir avec l'ennui de ce match?
Mais tu nous as appelé pour parler football.
Pour parler de Daniel Balawan.
On peut faire un débat autre que le foot, parce que ce soir, mais c'était ennuyeux. L'horaire du match, déjà 21h10, c'est très ennuyeux. Le stade.
Non, c'était 21h, 21h10, t'es arrivé en labour, t'as raté un but. Hein.
Mais non. Mais le stade calme, à part que quand Mbappé a le ballon, ça sifflait. Donc c'est aussi très ennuyeux.
C'était un public de footix. Hein, ça...
Quand tu vois un Chili qui est capable de transpercer un milieu de terrain et une défense en 4 passes, on va pas parler de construction, on va parler carrément de fondation à refaire, quoi. Alors défense, c'est il n'y a rien. Et je ne sais pas si, comme dit Stéphane, si c'est les matchs du mois de mars où on peut pas vraiment tirer de conclusions sur ces matchs-là, parce qu'il y a des matchs européens à venir.
J'ai l'impression qu'on se le dit quand même chaque année, quasiment à cette époque-là.
À part évidemment les nations qui jouent leur ticket,
mais les autres, bon, voilà.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec Stéphane. Les matchs du mois de mars, les mecs, ils ont des matchs des Ligues des Champions, des Ligues Europa et des Conférences Ligue à jouer. Même le championnat qui va reprendre dernière ligne droite, peut-être qu'ils ont autre chose à penser.
Non, mais ça, c'est valable pour les autres sélections aussi, hein, tu sais, Daniel. Hein.
Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça que je me dis. Quand on parle de vivier, plus gros vivier européen, et qu'on produit des matchs ennuyeux comme ça, je sais pas où il est
vivier. Non, le plus gros vivier de joueurs, de qualité, je ne le sais pas. Quand tu vois jouer les espoirs, le football qui est pratiqué par les espoirs et le football qu'on pratique nous, l'équipe A, on le sait de toute façon que c'est pas du grand football, mais c'est du football qui en compétition sur un mois s'avère régulièrement efficace. Donc ça, on le sait. C'est pour ça que je dis, je veux surtout pas tirer d'enseignement sur ce qui peut se passer au mois de juin à l'Euro. T'es dans un groupe avec Autriche, Pays-Bas et on va voir Pologne ou Pays de Galles. Avec trois équipes qui sortent par poule, très logiquement tu vas sortir. Après, c'est toujours un jeu où tu dois maîtriser tes fondamentaux. C'est l'état d'esprit, la détermination, Mbappé en forme, un Griezmann qui anime le jeu au milieu et une défense solide, un milieu et une défense imperméable. On connaît nos fondamentaux, elle n'est plus là.
Hein.
De quoi ?
La défense solide de Deschamps n'est pas là.
Alors, justement, là, tu apportes un élément intéressant, c'est que comme d'habitude,
ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est pas que les matchs de mars,
les fondamentaux de Deschamps, on les connaît, vous avez tous raison. On vient de les énumérer. Maintenant, s'il n'y a pas de défense très solide, parce que c'est ce qu'il adore, c'est-à-dire un bloc de le bloc, c'est une espèce de carré au milieu, c'est les deux centraux et deux milieux de terrain. C'est un souci.
On va développer ça, Daniel.
Parce que dans notre jeu, si on n'a pas ça, après, il te reste plus que Mbappé. Et Mbappé, quand on le voit là, il aura plus envie à l'Euro quand même. Il aura envie de jouer à l'Euro. Mais en ce moment, il n'a pas envie de jouer.
On va revenir sur notre défense, qui a fait un seul match sans encaisser de but sur les cinq dernières rencontres. Hein.
Mais tu sais, là,
7 buts en 5 matchs. Au milieu, il y avait Gibraltar, donc forcément 14-0.
Il y a la tête de comment il s'appelle, de.
Vargas sur le poteau, il y a deux buts, c'est un problème.
Ouais.
Allez, je remercie Daniel d'avoir fait le 32-16.
C'est beaucoup quand même.
Daniel, toi tu restes avec nous, avec Stéphane évidemment. Notons le score entre les Pays de Galles et la Pologne. Le vainqueur sera qualifié pour l'Euro et dans le groupe de l'équipe de France, Johan.
3 minutes à jouer dans cette prolongation 0-0 entre le Pays de Galles et les Polonais. Des regards très inquiets du côté des Gallois.
Les pénaux.
Bah oui, c'est ça.
Allez, on y va. Je le sens que ça va être
0-0 du coup entre le Pays de Galles et la Pologne. 3 minutes à jouer. Allez, pause, on va dans un instant avec Stéphane Guy, Daniel Riolo pour la suite du débrief.
C'est fini normalement pas mal sur Pénon.
De France, tout à fait. De France, Chili et puis les autres matchs de la soirée. Paulo Breitner, Julien Laurence seront avec nous également avant minuit. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo, c'est l'after. On débriefe la victoire de l'équipe de France, 3-2 face au Chili. Tiens, le temps de score sur le dernier match pour le dernier ticket pour l'Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Pologne. Johan Bredov.
Eh bien, on n'en sait pas plus. À une minute du terme, 119e minute de jeu, Pays de Galles-Pologne 0-0. Rien à se mettre sous la dent dans cette prolongation. Les deux équipes qui se dirigent tranquillement, Daniel, vers la séance.
C'est vendu.
Alors messieurs, vous savez, sur RMC, cette semaine, on va ouvrir à nouveau le coffre RMC. 50 000 euros à gagner, Stéphane. Ça ferait du bien, non?
Ah oui.
Ça te ferait du bien, toi aussi?
Ah oui, oui.
Pour toi, c'est une somme quelconque.
Non, non, c'est vital. C'est vital. 50 000 euros, c'est
50 000 euros. Dès que vous entendez ce signal-là, vous envoyez coffre au 7-32-16. Vous aurez 5 minutes, hein. Il faudra se dépêcher pour envoyer coffre au 7-32-16. Et vendredi soir, vendredi 29 mars, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Mais vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Envoyez le coffre donc au 7-32-16.
Au 7-32-16. Ou le séjour au camping?
Ouais.
À 50 000, ça a l'air de valoir quand même plus cher qu'un séjour au camping.
6 personnes? Je sais pas, camping Tikayan, je pense que c'est. C'est le principe, c'est normal.
Donc soit un camping de luxe, hein, quand même.
Et tu comprends, c'est comme le jeu à l'époque sur France 2, la brosse à dents, tu sais. Non. Soit tu pars avec une brosse à dents, soit tu pars avec un voyage en Californie, tu vois.
Ah bah non, mais là, ça. Non, là pour le coup, c'est
pas une brosse à dents, Tikayan. C'est bien un camping, 6 personnes quand même.
Bah quand même, oui.
C'est bien.
Oui, c'est vachement bien, mais je trouve que 50, c'est encore plus. C'est ouais. Limite, tu fais 6 personnes à l'hôtel.
En tout cas, l'alerte peut retentir à tout moment, vous le savez, pendant la pause, pendant nos débats. Soyez à l'écoute d'RMC. Ah, moment important dans le Pays de Galles-Pologne, Johan, un carton rouge.
Je ne sais pas si ça va compter, mais deuxième carton jaune pour mes femmes, il reste 20 secondes à jouer. Voilà les Gallois qui vont terminer à 10. Cette rencontre toujours 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne, mais par contre la dernière occasion, coup franc très dangereux pour les Polonais à venir, donc la toute dernière chance pour la Pologne.
Pourquoi le coup franc, il est où?
Il est à quoi, 25 mètres,
ah, là, 30 mètres. Ah oui, oui, d'accord.
30
okay,
mètres,
vois.
Un peu axe gauche. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'est la dernière grosse occasion pour
on
les Polonais. 0-0.
Du mec qui marque à la dernière minute de la prolongation, ça n'arrive pas des masses quand même, ce genre de choses. Hein.
On ne sait jamais. Robert Lewandowski est là, Daniel.
Ouais.
Allez, on voit ça dans un instant, la séance de tir au but.
Marais qui avait marqué.
On verra ça en direct sur RMC.
Très important. Des coups francs comme ça, c'est rare.
On parle de Franchelli surtout. Et restons sur le match, messieurs. J'accueille Raouf au 32-16. Salut Raouf.
Bonsoir, messieurs.
Bienvenue dans l'After avec Stéphane et Daniel.
Fais pas trop de bruit, hein.
Tu t'es déjà fait ou pas celle-là, non, Raouf, c'est ta première ou non?
Non, je suis déjà passé 2-3 fois.
Et est-ce que tu l'as faite?
Non, celle-là, je l'avais pas faite.
Non, je l'avais pas faite. La dernière fois, j'avais confondu mon prénom avec Raoul. Mais bon, ça m'arrive tout le temps.
Le cri qui dessoule. Tout à fait. Alors, Raouf, soyons positifs un peu ce soir quand même. Dis-moi ce que tu as aimé d'abord dans ce match, en équipe de France.
Alors, ce que j'ai aimé. Il y a pas beaucoup de choses, mais on va dire que.
Non, elle fait plaisir à Nico, trouve un truc, merde.
Il y a deux, trois trucs positifs.
Sur ta fiche, je veux parler de Colomoigny notamment.
Ah bah Colomoigny, voilà. Colomoigny, évidemment. Je regarde de temps en temps les matchs du PSG. Là, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout le même Colomoigny. Il était quand même assez à l'aise avec le ballon. Il était puissant. Il essayait surtout l'investissement. Il était agressif. Il essayait de faire des choses. Et Fofana aussi, hein. Fofana qui. C'est le seul milieu de terrain pour moi qui a essayé à peu près de faire des choses et qui a mis de l'impact en fait. Il a récupéré pas mal de
ballons. Est-ce que ça veut dire, alors est-ce que ça veut dire, ça répond définitivement à la question, Colomoigny, joueur de côté droit ou avant-centre, il y avait, alors à Nantes c'était plus côté, à Francfort, mais dans un système différent, il pouvait donner l'impression que c'était plus un neuf qu'un côté. Est-ce que définitivement, après ce qu'on voit au PSG, et là en équipe de France quand il est à droite, c'est vraiment un joueur côté droit. Moi, ce qui me gênait dans l'idée de dire que c'est un côté droit, c'est que je trouve qu'il va pas vite. Alors, il a des changements de rythme qui parfois peuvent être intéressants. Ah, il va pas super vite pour un mec de côté aujourd'hui. Quand tu vois les gars sur le côté aujourd'hui, ça va quand même beaucoup plus vite que lui.
Ouais, mais avec le ballon, il va vite.
Ouais, il a des changements de rythme qui peuvent être intéressants. Maintenant, faut voir contre des gros défenseurs, ça va passer un peu moins. Mais après, il y a aussi des systèmes de jeu. Hein. Dans les systèmes de Luis Enrique, je pense qu'il faut un peu plus se casser la tête sur ce qu'on fait sur le terrain. Peut-être qu'il est plus basique et que ça lui va mieux, en tout cas en équipe de France.
C'est ce que lui réclame. Il est bon, hein. Il veut pas jouer neuf. Le sait.
Alors donc ça veut dire que ça doit être une doublure de Dembélé.
Exactement.
Après Daniel, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à Paris, il a déjà fait 2 ou 3 matchs sur le côté.
Oui, bien
Ramos
sûr.
Était en neuf et c'était pas le même que le
même. Moi, même côté gauche. Même changé. Côté gauche, il a joué. Après, il est toujours dans l'effort. Il rechigne pas. Il fait ce qu'il faut. Après, on a le droit. Enfin, moi, je l'aime bien, sa mentalité et tout. Maintenant, bon, techniquement, c'est pas un artiste, hein, c'est pas.
Mais
bon.
C'est pas un artiste, mais en tout cas, avec l'équipe de France.
Mais voilà, c'est quand même mais il est fiable. C'est un gars qui. Est...
En tout cas, il a un atout que beaucoup de joueurs offensifs de l'équipe de France n'ont pas, c'est que il a un jeu de tête. Et qu'en dehors de Giroud, il n'y en a pas d'autres qu'on injecte. C'est un autre argument pour lui.
Il sera à l'Euro, peu importe.
Oui, voilà, ça y est maintenant.
Cette saison qu'il est en train de faire au PSG, où honnêtement,
Franchement, il y avait un gros doute par rapport à la saison qu'il faisait. Tu te disais, est-ce que ça vaut le coup de l'emmener?
Quand tu es sur le PSG, oui. Voit, il y en a pas qui, cette année, vont te dire qu'ils ne s'arrachent pas les cheveux. Hein. Donc, écoute, voilà.
Mais moi, j'en profite, j'ai une autre question. Parce que là, on est tous d'accord pour dire qu'on s'est ennuyé ce match-là, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas spécialement envie. Dans ce cas-là, hier, je crois que vous avez lancé le débat. Pourquoi ne pas essayer un nouveau système? Puisqu'en tous les cas, c'est une sorte d'entraînement, on est là pour jouer à la baballe. Pourquoi ne pas en profiter?
Parce que Deschamps, il n'aime pas ça, c'est tout. Deschamps, il n'aime pas. Il a essayé à un moment le 3-5-2, là, et ça ne lui plaît pas. Il revient à ses basiques, il aime ce qu'il maîtrise, il prend les joueurs dans le schéma qu'il maîtrise, et souvent les joueurs lui répondent, d'ailleurs. Et,
oui, puis c'est rarement.
Oui, mais comme Deschamps, je pense que ça ne marche plus, ce qu'il maîtrise Deschamps. Enfin, ça marche, en tout cas, ça marche moins bien en ce moment.
Je pense que Deschamps, sur ces matchs-là, il n'a pas le même regard que nous. Alors, il s'ennuie sans doute autant que nous, mais lui, il veut valider quelques. Par exemple, je pense qu'il voulait valider Colomoigny. Voilà, ça faisait partie de ses questions du soir. Il voulait valider Fofana, il voulait voir. Koundé, Koundé, ça peut pas le faire.
Et le problème, c'est que si tu fais une défense à trois, il te faut deux mecs sur les côtés, là, ce qu'on appelle les pistons. T'en as un, Théo Hernandez, mais de l'autre côté, tu l'as pas. À moins de considérer définitivement que Klose, c'est le seul qui peut faire ça. Donc, ça doit être lui ton titulaire.
Mais avec des carences défensives.
Dembélé, c'est pas un souci. Dembélé ne peut pas jouer à droite. Parce que quand on regarde la Coupe du Monde, il était quasiment milieu de terrain, Dembélé. Il défendait beaucoup, parce qu'il lui demandait de beaucoup défendre.
Je voudrais qu'on parle de la défense, quand même, messieurs, parce que tout le monde veut en parler, visiblement. Commençons par la charnière.
Et Griezmann n'est pas super à l'aise dans ce schéma. Griezmann n'est pas super à l'aise dans ce schéma, ou alors il faudrait qu'il soit deuxième attaquant. Et dans ce cas-là, tu ne joues plus qu'avec Mbappé et lui. Enfin, bref, ça, je pense que ça demande, c'est trop casse-tête. Pour les solutions joueurs de Deschamps, en fait.
On a vu 4 défenseurs centraux différents sur les 2 matchs. Alors certes, il faut relativiser ces matchs du mois de mars. Qui vous semble, vous, aujourd'hui, les mieux armés pour camper ces rôles en charnière?
Moi, je pense que...
Toi, Saliba, t'as un fait pour lui, Daniel, on le sait, Stéphane.
Non, mais t'as une charnière ou pas, Mécano, Konaté. Voilà.
Pour toi, elle est inamovible.
Ce qu'on a vu là, ça remet pas le match de Saliba ce soir m'a pas épaté. Pourtant, moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. Quand je dois jouer avec Arsenal, je me dis c'est le meilleur défenseur central français. Mais je vois pas ce qui peut être remis en cause par rapport. Je trouve que Konaté a été consistant ce soir. J'avoue que j'ai raté le deuxième but chilien. Donc il est pas en cause sur le deuxième but chilien.
Non.
Bon, ça va. Souvenir.
Voilà. Konaté, Pavard, Upamecano, Saliba.
Si tu joues à deux centraux, je vois pas Pavard. La charnière qu'on a vue là contre l'Allemagne, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible.
Bon.
Moi, je t'avoue que je ne sais pas parce que Saliba me semble être le meilleur, mais dans le jeu d'Arsenal qui est complètement différent, c'est pas la même histoire. Konaté ou Upamecano, ils ont l'antériorité.
Ce qui semble assez clair, Daniel, quand même, c'est que
donc comme les autres mettent pas tellement en la hiérarchie en cause, bah il y a de grandes chances que tu repartes avec eux, à moins qu'il y ait des blessés. Après, Upamecano, c'est toujours pareil. Hein. Des fois, t'as l'impression que t'as découvert l'arrière centrale de la décennie, et d'autres fois, tu te dis c'est quoi cette pompe. Non, mais c'est vrai, il a des irrégularités qui sont très inquiétantes, en équipe de France, sur un tournoi,
il a montré qu'il était là.
Ça, c'est sûr.
Quand même, c'est ça le critère de jugement.
Il a montré qu'il était capable de livrer des grandes performances.
Voilà. Sinon, je pense qu'on est d'accord, Théo Hernandez à gauche, c'est mieux que Lucas Hernandez.
Ah oui.
Dans l'autre esprit à nous, pas dans celui de Deschamps. Dans celui de Deschamps, c'est Lucas Hernandez, visiblement. Ce qui voudrait dire que Lucas pourrait être aussi un postulant en défense centrale.
Bah ouais.
Une cinquième option.
Bah oui, si son frère joue à gauche. Tu pourrais très bien le mettre en charnière centrale, pour le coup, avec un Saliba. C'est une option supplémentaire. Pourquoi pas?
Après, il faut imaginer Deschamps qui essaie de faire jouer Théo, qui est plus offensif, avec Mbappé à gauche. C'est pas lui, Deschamps, ça. C'est pas son logiciel.
Si, on l'a vu à la Coupe du Monde, on l'a vu.
Mais parce que Lucas Hernandez s'est blessé des premiers matchs.
Mais d'accord, mais bon, ça.
Sans ça, il partait sur Lucas titulaire.
Ça n'a pas empêché d'aller en finale. Puis Théo, ce soir, il a encore fait, sur son centre, montrer que, voilà, c'était une belle patte.
Bon,
t'as pas assez de talent créatif dans cette équipe
et de bons centraux
aussi. Joueurs comme Théo Hernandez, à mon sens.
On est d'accord, un autre sens en tout cas, pas forcément celui de Deschamps. Raouf, tu voulais rajouter quelque chose?
Remercier et faire une petite dédicace rapide à mes potes Mathieu et Martin qui sont nos fidèles auditeurs, donc je pense qu'ils m'écoutent. Et voilà, vous souhaitez une bonne soirée et espérez que les prochains matchs de juin seront pas comme ce soir.
On l'espère aussi. Merci Raouf, hein, tu reviens quand tu veux sur RMC bien sûr.
Merci.
Messieurs, je voudrais qu'on parle également tiens de Jonathan Clauss qui lui est sorti blessé, hein. Je vais donner l'info quand même à la 9e minute de jeu. Premier diagnostic, info RMC Sport, déchirure de l'ischio de la cuisse gauche.
Ah, lui il en a pour un moment. Hein.
Un défenseur de plus forfait à Marseille pour le match contre Paris dimanche. Je rappelle que Babo Meite, Ulysses Garcia, a priori Samuel Gégaud, Mikel Morillo aussi.
C'est un joueur de Ligue 1, on s'arrête.
Allez, avant de faire la pause, un point sur la séance de tir au but entre le Pays de Galles et la Pologne, Johan Bredov.
Et le lançois, c'était Frankowski qui permet à la Pologne de garder l'avantage 3-2, mais le prochain tir au but, il sera pour les Gallois. Lewandowski, Szymanski et Frankowski ont marqué pour l'instant leur tentative du côté de la Pologne. Ben Davis et Kiefer Moore, double barre entre.
Le Gallois là, qui vient de tirer.
Kiefer Moore.
Oh, le péno. Ouais,
le double barre entre quand même.
Si t'es Gallois, tu t'es tapé un stress.
Exactement.
Barre transversale, poteau qui rentre. Wow, c'était très, très, très tendu. Et là, lui, ça a l'air d'être un boom là, qui va tirer. Là.
C'est Wilson qui va frapper ce tir au but, qui va essayer de tromper.
Le mec qui fait les raquettes de tennis.
Exactement, bah, c'est lui. Je vois que tu suis. Wilson, donc avec sa patte gauche.
C'est son descendant. Hein, je sais pas.
Des coups de pierre arrêtés.
C'est possible.
Pas possible que ce soit un descendant.
Eh ben pourquoi
c'est marqué.
Ouais.
Quand même sur David.
Trois partout dans cette séance de tir au but entre le Pays de Galles et la Pologne.
La séance de péno là.
Je rappelle que le vainqueur de ce duel là, cette séance de tir au but, affrontera l'équipe de France hein, à l'Euro l'été prochain.
Là, je pense qu'en ce moment, ils s'en foutent complètement.
Qui?
Bah, et les Polonais et les Gallois.
Non, mais, et les Français qui nous écoutent.
Mais non. Je pense que eux, ce qui
ah oui, ils en foutent évidemment.
Je pense qu'ils ont pas lié dans l'idée.
Encore une radio française, Daniel.
Mais
vas-y, Johan.
Mais là,
bon, on y est pour le quatrième tireur du côté de la Pologne, c'est Zalewski, le Romain qui a réalisé une très bonne partie, très actif sur son côté gauche. Le Romain qui va essayer donc de marquer pour garder cet avantage. Trois tirs au but partout entre le Pays de Galles et la Pologne dans une rencontre très tendue. Il s'élance et c'est bien frappé. Ils le gardien qui était parti du bon côté. Mais voilà, ça fait 4 tirs au but à 3 pour la Pologne. Très bien frappé. Bah tiens, il y a peut-être Deschamps qui doit prendre des petites leçons. Les Bleus qui ne veulent pas travailler les tirs au but. Ça se travaille les tirs au but.
Moi, je mise 4, sur le
3
prochain,
pour la Pologne.
Chesney va faire un truc. Je mise dessus là.
Allez, on va voir ça. Donc les Gallois qui doivent s'en sortir pour essayer d'égaliser et pas se faire peur, pas donner un tir au but décisif pour la Pologne. Le Pays de Galles qui s'est qualifié 3 fois dans son histoire à l'Euro, on se rappelle de leur performance.
Ce Gallois.
Mais non, c'est Nico Williams, ça fait pas peur.
Nico Williams, c'est
oui,
ça va faire,
regarde. Nico Williams qui va déposer Chesney pour essayer d'égaliser. 4 tirs au but à 3 pour l'instant pour les Polonais alors que c'est à Cardiff. Nico Williams devant son public qui va essayer d'égaliser. Il s'élance, Nico Williams. Le contre-pied, parfait. Les
4 partout. Bon, on fait les 5e. Si ça continue, on fait une pause et on revient. Ouais. Ça peut durer une demi-heure encore.
Ça pose, Nico. Il n'y a pas de pause. Non, allez, là, c'est tendu.
4 partout. Vas-y, Johan, quel est le prochain tireur? On va le voir dans un instant. On va le découvrir ensemble, bien sûr.
Il sera polonais, déjà, pour essayer de mettre la pression sur les Gallois.
Ce ne sera pas Boniek.
Ouais, ce ne sera pas Boniek. Ce sera Piatek. Lui, l'avant-centre. Ah oui. Voilà, l'avant-centre de la Pologne qui n'était pas titulaire, qui a fait son
entrée
en jeu. Piatek, attends, tu me poses une colle parce que là, pardon. Je suis perdu dans mes fiches.
Je suis le pédo, regarde le pédo, laisse tomber.
Je vais te le dire. Dans un instant, il joue à Başakşehir, Piatek. En Turquie, allez, Piatek qui s'élance pour défier Ward. Ouais, c'est bien tiré une nouvelle fois, contre-pied parfait. 5 tirs au but à 4 pour les Polonais.
Le qui va tirer là.
La pression, elle est là pour les Gallois. Allez, sur ce 5e tireur.
On va voir si elles sont cagones.
Allez, 5 tirs au but à 4.
Et la joie de Frankowski.
Pour la Pologne et la joie de Frankowski, évidemment.
Sachez rapidement que je vous dis hein, quelques scores en même temps que l'Espagne mène 3-2 face au Brésil. C'est les 96e minute de jeu. Tout à l'heure, on parlera de l'Allemagne qui a battu les Pays-Bas.
Tu dois choisir. Là, comme ça.
Oh, c'est deux pays que j'aime bien.
Ouais,
ça.
Mais vas-y, faut
allez,
choisir.
Pays de Galles. Parce que je trouve qu'après.
On a plus de relations, nous, avec la Pologne, hein, français.
Oui, bien sûr. Évidemment. Non, mais Pays de Galles, parce qu'ils ont quand même perdu une sacrée génération. Et les voir se qualifier là, ce serait une perte.
Moi, je suis un peu plus polonais. Je sais pas
moi aussi. Je suis polonais.
Daniel James, le joueur de Leeds, qui va essayer de égaliser dans cette séance de tir au but. La pression est sur lui. C'est l'ouvert voilà. C'est terminé. L'arrêt de Chesney, il a été énorme sur cette rencontre, le gardien polonais. Ouais. La Pologne sera à l'Euro pour la 5e fois de son histoire.
Attends.
Ouais, ça va être retiré. Non, c'est validé. La Pologne sera à l'Euro dans le groupe de l'équipe de France.
Eh bien voilà, on a le groupe de l'équipe de France hein, qu'on a affronté, la Pologne, en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Allez, on revient dans un instant. On va parler de Mbappé, puisque visiblement beaucoup de gens veulent en parler sur le chat, également au 32-16. Les deux matchs de Kylian Mbappé. On évoquera également le match de Giroud. 57e but en bleu. Restez avec nous, c'est l'after avec Daniel Riello et Stéphane Guy. Stéphane est tout ému par l'issue de la séance de tir au but.
Je regarde notre ami commentateur nous quitter avec le talent qui a été le sien de faire vivre ça. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de respect.
Yann Bredov, c'est pas polonais d'origine là, comme nom ça? Attends, Bredov.
Bredov, si, bien sûr.
Ah ben voilà pourquoi il est heureux. Évidemment.
On le sentait heureux.
Ah d'accord.
Bon, Bredovski. On va terminer quatrième de la poule, mais c'est pas grave.
Bredov, quoi, ça.
On va, ça y est, on va là. Bravo, bravo Yann.
Allez, reste avec nous avec Daniel Riolowski et Stéphane Gilowski. L'after se poursuit dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo. Merci d'être avec nous en direct sur RMC, 23h32, en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Hein. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs, voir l'émission en vidéo sur la chaîne after@afterfoot, pour nous voir, vous abonner également et commenter dans le chat. Vous êtes plus de 2200 en direct. Avant d'accueillir Paulo Breitner, tiens, un mot quand même sur le match de Kylian Mbappé. Mbappé qui, c'est pas mal, c'est pas si mal.
C'est pas si mal.
C'est pas de la télévision en plus. C'est pas de la TNT non plus, mon cher Stéphane. Et puis il est tard aussi quand même. On a 141 000 abonnés quand même, cette chaîne, tu sais. Kylian Mbappé donc.
Je sais jamais si c'est bien ou pas ces choses-là.
Passeur décisif. Voilà.
C'est trop moderne pour moi.
Ce soir, Kylian Mbappé, d'ailleurs qui devient le deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus. Il dépasse Zidane, qui est à 26.
C'est quoi la passe décisive, excuse-moi?
Sur Fofana.
Sur le but de Fofana. Il décale.
C'est une blague ou quoi?
Ça s'appelle une passe décisive.
C'est la passe avant le but.
Non. Ah non, mais moi je refuse.
Mais s'il n'y a pas la passe, il n'y a pas le but, Daniel.
Non,
voilà, c'est ça que je veux dire.
Bah oui, s'il n'y a pas la passe,
c'est vrai que c'est pas une passe.
Et s'il rentre pas sur le terrain, il n'y a pas la passe
de Théo pour.
Je refuse de considérer que c'est une passe décisive. C'est pas une passe décisive.
Eh bien, ça compte dans les stats, tu vois.
Déjà, toute passe qui enchaîne derrière sur une frappe à 20 mètres, c'est en soi déjà un geste assez difficile. Non,
je suis d'accord avec toi.
La passe décisive, c'est. Le ballon, tu le touches, tu le mets dedans, mais pas parce que ça donne que le gars il se décale, il met une frappe à 20 mètres et ça rentre.
Peut-être que ça devrait compter que les passes qui au moins arrivent dans la surface.
Ça c'est une passe décisive, mais arrêtons.
Mais c'est compté.
Tu me dis hier dans les espoirs, le match des espoirs, la passe que Akliouche fait à pour un but des jeunes gamins là.
Andy Diouf.
Ça, c'est une vraie passe décisive. Ouais. Le mec, tu le vois, il est décalé, il donne le ballon très propre, il sait même ce que ça va occasionner, à savoir une frappe. Voilà. Là, Mbappé, il décale le mec. C'est pas une passe décisive, il le décale.
Daniel, je te propose d'écrire au bord de la FIFA pour revoir le décompte des statistiques.
Mais c'est du bon sens,
tu as raison.
C'est pas que je vais écrire ou pas, c'est juste que j'en ai rien à cirer.
Sauf que ça compte.
Je trouve. Voilà. Mais
comme certaines de Zidane ont pu compter par le passé, ou d'Henri ont pu compter, et de Griezmann qui a 30.
Si tu veux. Mais tous les gens qui connaissent le football te diront, c'est pas ça une passe décisive, ça c'est stupide.
Oui.
Que ça compte parce que on a décidé de développer un football avec des chiffres à l'américaine, avec des stats à la con, et qu'il faut battre des records et tout ça dans tous les sens. Ok, que ça intéresse des teubés de compter de cette façon. Ok. N'importe quelle personne qui connaît le foot ne peut pas te dire que Mbappé a fait une passe décisive ce soir.
Enflammé à 23h35.
Non, allez, c'est pas grave.
Non,
on avance.
Ça n'est pas une passe décisive. Il a décalé le joueur. C'est pas. Et à quelle heure il vient, Julien Laurence?
Il va venir dans 10 minutes, mais je pense que Paulo Breitner, dans un sens, sera d'accord avec toi.
Bon, Paulo, évidemment, qui est d'accord avec moi, les yeux fermés. Mais.
Daniel, on a compris.
Tu ne passes ici.
On a compris.
Non, mais je veux que tu me dises, je suis d'accord avec toi.
Mais je te lis trois fois, je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit trois fois, d'accord?
J'ai entendu.
Maintenant, le débat, et on fera pas ce soir.
Je m'ai entendu.
C'est à partir de quand on considère que c'est décisif ou pas, si tu veux compter les stats. Ou alors, on oublie les statistiques.
On n'est pas obligé de s'en remettre à des instituts minables qui donnent des chiffres moisis.
Je te propose de reprendre tous les buts en équipe de France et de faire un décompte officiel désormais. Spécial after.
Je te dis, moi, ce soir, je considère que ça n'est pas une passe.
Mickaël est avec nous,
32-16. Je me fous des records.
Salut Mickaël, bienvenue dans l'after.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue.
Stéphane, bonsoir Daniel.
Et Mickaël est d'accord avec moi, c'est pas une passe décisive de Mbappé ce soir.
Non, clairement, c'est pas une passe décisive.
Voilà.
Vas-y, Mickaël, tu voulais parler de Mbappé justement.
Oui, du coup, surtout de son match et celui d'avant. Et ok, on peut faire des mauvais matchs, mais moi, dans l'attitude, enfin, je sais pas pour vous, mais dans l'attitude, j'ai trouvé ça scandaleux.
Je suis absolument d'accord, c'est très bizarre.
C'est scandaleux.
Presque trop gros pour être vrai.
J'ai l'impression, moi, personnellement, que le fait d'avoir le numéro 10 dans le dos et le brassard, ça lui monte un peu la tête.
C'est déjà un truc qui est monté chez lui depuis des années, ça ne le gêne pas d'habitude.
Non, mais dans l'attitude, j'avais l'impression de voir un Neymar de Wish. Le mec se prend pour un numéro 10 alors que ce n'est pas ses qualités premières. Ses qualités, c'est sur le côté gauche, les ballons lancés en pleine vitesse. Et là, je le.
Mais j'ai entendu dans le commentaire de nos amis de TF1, l'homme de terrain, Saber Desfarges, qui disait à un moment donné, Deschamps lui demande d'être dans l'axe et de laisser le couloir à Théo Hernandez.
C'est pas son jeu, il n'a pas les qualités, il n'a pas la qualité technique comme pour.
Et Mbappé, il peut jouer n'importe où.
Ça, à la limite,
s'il a envie, s'il est dedans, s'il est motivé, si. Là, ce soir.
Non, mais il n'y a pas de raison, c'est très bizarre. En équipe de France, ça arrive pas.
Surtout deux matchs de suite.
Deux matchs
sont marqués déjà.
Il est là, il traverse le match comme un fantôme, c'est pas normal. C'est même gênant, il ne peut pas faire ça.
Peut-être qu'il se réserve pour dimanche à Marseille.
Oui, mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. S'il vient en équipe de France, c'est pour jouer. Surtout s'il fait de la première à la 90e, il n'a pas le droit d'être un fantôme. Pas lui, il est capitaine, il se doit d'être performant. Dans ces cas-là, il demande à jouer un match sur deux, j'en sais rien.
Stats pour lui, c'est des matchs.
Ouais, mais ça c'est nul parce que ça veut dire qu'il pense à ses stats et pas à l'équipe, donc c'est pas bon non plus. J'aime pas du tout ces deux matchs ne sont pas bons.
J'insiste encore dans la qualité du jeu. Enfin, je sais pas pour vous, les passes à 2-3 mètres là.
Mais c'est pourri, il rate tout.
Il se courait à l'entraînement, il montre l'endroit où il va faire la passe et il fait sa passe à 2 mètres là, ou sa petite talonnade.
Pas bon du tout.
Contre-productif.
Absolument, désolé, totalement.
Bon, et pourtant, l'homme était venu en conférence de presse en disant qu'il allait se mobiliser, qu'il fallait relever la tête,
montrer qu'on est l'équipe de France. Ses prestations minables.
Mais peut-être qu'il y a soit il y a de la fatigue, soit il y a un manque de rythme, peut-être qu'il y a aussi des raisons physiques par rapport à ce début d'année un peu étrange qu'il vit. Cherche pas d'excuses, ça sert à rien de chercher des excuses. Mais c'est vrai que les performances.
Imagine que physiquement il soit cuit, dans ces cas-là, tu joues pas, et puis t'es pas cuit au point de même pas bouger un peu, quoi, tu vois. Ouais.
Il a bougé, on peut pas dire.
Il bougeait pas, il marchait, il s'est même pas, il a fait 4 courses, quoi. Donc c'est pas possible, c'est pas digne de lui, c'est pas lui, quoi. C'est nul, vraiment, c'est très décevant.
C'est un rythme de match, tout petit rythme de match.
Ah ouais, bon. Vraiment, si Nico Jamin aurait pas apporté plus sur le côté.
Ça, c'est pas impossible. Sur un côté aujourd'hui compliqué.
Si j'ai encore 30 secondes, je voulais revenir sur le milieu de terrain. Je suis désolé, mais Tchouaméni, Kamavinga, Fofana, ce que vous voulez, techniquement, c'est trop faible pour la construction du jeu. Et je me dis, pourquoi ne pas rappeler N'Golo Kanté? Clairement, je ne vois pas ce
que. Mais il joue au foot, N'Golo Kanté?
Mais Kanté, il joue en Arabie Saoudite, voyons.
Même Kanté sur une jambe, c'est mieux.
Faut pas exagérer. En plus, Kanté, c'était pas un créateur, calmons-nous aussi.
Ouais, mais c'est quand même au-dessus. Techniquement, c'est au-dessus.
Ah, bah oui, merci, évidemment. Mais enfin, n'empêche que c'est pas. Tu vas pas te dire, il faut rappeler N'Golo Kanté qui est en Arabie Saoudite, qui joue plus au haut niveau. Tu les as vus, les matchs là-bas?
Oui, c'est vrai. Mais en tout cas.
C'est des matchs, ça va. C'est même pas un rythme de sénateur.
Tu dis oui, c'est vrai. T'as vu les matchs là-bas?
Non.
Moi, j'en ai vu que deux dans ma vie.
Je cherche le mec qui avait un match là-bas, donc je qui m'écris.
Ce qu'on lit, c'est que là-bas, il fait des bons matchs.
Oui, mais
il enchaîne les matchs. Il retrouve un niveau qu'il n'avait plus vraiment face à une université différente. Voilà.
Et c'est vraiment, ça va.
Dans les autres sélections, il y a plein de joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Wijnaldum. J'ai vu tout à l'heure, il y avait Neves avec le Portugal. Il joue sans problème et on se pose pas la question. Pourquoi
ils ont pas 35 ans.
Otavio, Neves, Ronaldo, Portugal.
Et le Portugal a perdu ce soir pour la première fois de l'ère.
Tout à fait.
Martinez.
Merci Mickaël d'être venu débattre avec nous et parler de Kylian Mbappé. Très bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Voilà les Bleus, on laisse de côté, on la trouvera plus tard pour les matchs de préparation à l'Euro 2024. Polo Breitner est avec nous, salut Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Je ne vais pas te lancer sur l'histoire des stats et des passes décisives, parce qu'on connaît ta réponse.
Je ne suis plus un prépubère depuis quelques années.
Voilà, tout simplement. Voilà. Le sens de la formule de Polo Breitner qui soigne toujours ses entrées dans l'after. Ses sorties parfois un peu moins, mais ses entrées, oui, c'est incontestable. Mon cher Polo,
important de réussir son entrée.
Oui, mais il faut toujours soigner sa sortie aussi. On parlera de la Main dans un instant, mon cher Polo, qui a battu les Pays-Bas. Je voulais qu'on commence par l'Autriche, adversaire de l'équipe de France à l'Euro.
As-tu le fait démarrer par une dépendance?
Alors, l'Autriche, mon cher Polo, qui s'est imposé 6-1 face à la Turquie, qui n'a perdu qu'un seul match en qualif pour l'Euro, c'était contre la Belgique, une défaite et un nul. Deuxième, je crois qu'ils font 6 victoires, un nul, une défaite.
C'est une très belle sélection.
C'est une belle sélection qui progresse, mon cher Polo.
C'est même une seule défaite lors des 14 dernières rencontres. C'est ce match contre la Belgique qui était mérité d'ailleurs, cette défaite.
3-2.
Le match nul à l'aller en Belgique était très chanceux. Ce soir, il y a 6-1, c'est vrai. N'oublions pas qu'ils ont battu en match amical l'Allemagne 2-0. Ils ont aussi battu l'Italie en match amical. Moi, c'est une sélection qui me plaît beaucoup sur le papier. Ralf Rangnick a réussi à mettre en place un 4-5-1 version Salzbourg, c'est-à-dire que le gegenpressing, il est là hyper souvent. Tout le temps, ils sont en train de chercher à avoir le ballon. Par contre, il y a beaucoup de déchets. Et le match contre la Turquie ce soir est très spécial parce que la Turquie égalise logiquement et domine en première mi-temps les 20-25 premières minutes. Et finalement, ça finit pour 2-1 pour la Turquie avec un but de Grigoric qui sort de nulle part. Et on se dit, ah ben, et la deuxième mi-temps, par contre, la Turquie s'écroule complètement. Alors, est-ce que c'est l'Autriche qui a vraiment été au-dessus? J'en suis pas persuadé. Ce que je vois, par contre, c'est que Ralf Rangnick maîtrise son équipe, qui a un très très fort milieu de terrain. Je vais vous en citer cinq, hein, Sabitzer, Baumgartner, Leimer, le joueur du Bayern. Donc là, je viens de vous citer Dortmund, Leipzig, le joueur du Bayern. Derrière, c'est Zewald.
En termes de qualité de ballon, c'est mieux que nos milieux de terrain à nous.
C'est vrai qu'en fait, et le vrai problème en fait, c'est que t'as l'impression que tu peux avoir une superbe équipe, que de toute façon l'Autriche n'a pas eu une telle génération depuis 40 ans en fait, et on ne voit pas forcément sur le terrain ce qu'elle pourrait produire en théorie, encore une fois, parce que c'est une équipe qui est très agressive et parfois il y a beaucoup de déchets et c'est pas forcément beau à voir. Donc je la reste très très petit outsider pour le groupe dans la France, mais en tout cas évidemment lorsque tu gagnes 6-1 comme ça, t'as c'est heureux, puis encore une fois une seule défaite en 14 rencontres.
Tout à fait, tiens, pose rapidement ce que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, est en conférence de presse, on écoute sa première réponse,
oula,
et après on parle de l'Allemagne.
Non, mais je vais pas sauter au plafond ce soir, c'est bien qu'on ait gagné ce match-là, en ayant mal commencé puisqu'on est mené, on a réagi, après, bon, d'avoir marqué 3 buts, c'est toujours bien, même si, bon, on en prend encore deux ce soir, mais bon, c'est lié un peu au niveau de forme qui est pas qui est pas optimal sur le plan de l'énergie. Mais c'est pas en 3 jours que ça peut se modifier avec pas mal de petits soucis chez les uns et les autres. Et puis bon,
ça a coupé. Non, c'est bon.
Chez tes joueurs aussi.
C'est peut-être mieux si tu es coupé.
Les échéances qui sont les leurs derrière. voilà. Je comprends que les joueurs soient un peu dans la gestion par rapport à l'importance d'accorder. Non pas qu'il faut banaliser ces deux rendez-vous, bon, mais ils ont fait ce qu'il fallait avant. Et il faudra qu'on fasse les choses différemment, c'est sûr.
Bon, voilà. Deschamps Polo qui a mieux réussi son entrée dans l'after que Deschamps ce soir, j'ai l'impression. mon cher Polo, t'as justement coupé par l'alerte coffre RMC. C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros. C'est le moment de jouer et d'envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre, COFFRE au 732-16. Vous avez 5 minutes dès à présent pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi soir dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la somme de 50 000 euros. Pause. Dans un instant, on parle de l'Allemagne avec Polo. L'Allemagne qui s'est imposée.
Au 732-16. Hein.
Tu l'as fait?
Pour gagner 50 000 euros, vous devrez ouvrir un coffre.
Tu l'as fait?
Une enveloppe.
Réellement? Magnifique.
J'espère gagner.
Je sais pas si on a le droit, nous, d'ailleurs.
Je crois qu'on a pas le droit. Hein. T'as pas le droit de le faire. Hein.
Ouais, mais il est pas en CDI. Toi, t'es en CDI, tu vois. Différent, peut-être.
Je suis un passager clandestin.
Un passager clandestin, Stéphane.
Ah ouais? Un troubadour. Saltimbanque.
Saltimbanque.
Je suis aubergiste. Je ne suis qu'un modeste aubergiste.
Allez, on revient dans un instant avec Polo, avec Stéphane et Daniel. Vous écoutez l'After RMC 23h45. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamain.
Avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo, c'est l'After. Il est 23h47. Tout à l'heure, Julien Laurent sera avec nous dans quelques minutes pour évoquer notamment la qualification, enfin l'élimination du Pays de Galles face à la Pologne et le nul entre l'Angleterre et la Belgique de but partout. D'abord, Polo, l'Allemagne. La nationale.
Attends, il a fini sur l'Autriche, Polo?
C'était encore une question à lui poser, tu peux lui poser.
Non, je veux dire, quand tu disais c'est la meilleure génération, c'est-à-dire qu'en Autriche, on dit quoi, ça rappelle l'époque fin des années 70-80,
ouais,
là. Bruno Petzel,
ouais.
Herbert Froasca, tout ça, là.
Exactement, très bien, Daniel. On voit que tu as de la culture foot, ça change de nouvelle génération.
Mais... oh, le truc pas nécessaire, la balle perdue, là, comme ça.
Ouais, balle perdue, mais ça fait but parfois. Ouais, c'est exactement ça.
Non, mais
ouais,
c'est 72, deux fois, 82. C'était l'époque où l'Autriche.
Mais dis pas quand même que l'Autriche a sorti des coups. Poule aussi, l'Autriche a joué à la Coupe du Monde.
Bah justement, ils étaient sortis deux fois de la phase de poule, ce qui était pour ce pays ça. Assez. Non, le truc en revanche que j'avais complètement oublié qu'il était mort si jeune, Bruno Petzel. qui était un défenseur de Bundesliga, hyper célèbre, libéraux magnifique. Ouais. Il est mort hyper tôt, ce genre. Enfin bref, parenthèse refermée.
Et ce frisé là qui joue, comment il s'appelait ce beau frisé autrichien qui joue en Italie? Ah, c'était lui.
Ah, à moins, non, lui, il était à l'Eintracht Francfort. Avant que tu parles de Proasca qui joue à la Roma.
Proasca, c'était.
Il est pas frisé, Proasca.
Il était un peu frisé, mais de là à dire qu'il était beau, non, ça dépend. Non, si t'aimes les moustaches, tout ça.
Si on aime les moustaches,
oui. C'est pas chacun ses goûts.
C'est pas bien les moustaches.
Il aime les moustaches, il aime les moustaches.
Il fallait une moustache avec sa barbe aussi, tu vois.
Aujourd'hui, il est commentateur pour la chaîne allemande, la chaîne autrichienne.
Polo, donc l'Allemagne a battu les Pays-Bas. Mittelstadt a égalisé après un but de Wehrmann pour les Pays-Bas. Füllkrug à la 85e pour le but de la victoire. Polo Nagelsmann avait reconduit l'équipe qui a gagné en France. Oui. Est-ce que tu as eu de la continuité dans la performance? Est-ce que tu as vu une sorte de prolongement de ce qu'ils ont fait face à l'équipe de France?
Un peu moins bien, c'est-à-dire que je me suis pas si emballé que ça lors de la performance contre la France, et j'attendais de une équipe voir si elle pouvait enchaîner une seconde rencontre à la suite. Et il y a beaucoup de choses positives en Allemagne. On parle d'un nouvel élan quand même, parce que comme si on avait peut-être trouvé son 11 de départ enfin. Mais il y a des séquences de jeu où ça sent pas la sécurité.
Polo, deux victoires de suite contre deux sélections de cet acabit pour l'Allemagne. Oui, moi, je trouve que c'est pas mal.
Ben ouais, mais bon, il y a quand même des choses qui vont pas dans le jeu. Alors encore une fois, ils dépassent les 700 passes, mais quand ça mène pas à grand chose devant le but, c'est toujours un petit peu délicat. Exactement la même équipe. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, si tu veux, alors il y a une chose très positive, c'est que l'Allemagne a été menée au score très rapidement à cause d'une grossière erreur de Mittelstädt, et ça, ils sont revenus au score, ils sont allés chercher la victoire. Ça, c'est ce qu'on retient en Allemagne, c'est qu'on a le sentiment d'avoir retrouvé une envie, un élan dans cette équipe. Maintenant, dans le jeu, j'ai le sentiment, en fait, que cet Euro arrive trop tôt et qu'il leur manque peut-être une dizaine de matchs ensemble pour vraiment peaufiner les automatismes, etc. Et peut-être que c'est un peu trop tôt pour là. Et quand Musiala et Wirtz, n'arrivent pas à faire exploser les défenses comme ils font d'habitude en Bundesliga, c'est un peu plus délicat. Et ce soir, il n'y a pas vraiment d'alternative, en fait, parce que on parle beaucoup de ce 11 peut-être trouvé par Nagelsmann, mais qu'est-ce qui se passe si Wirtz n'est pas là? Musiala n'est pas là. Averts, on l'a pas vu ce soir.
Dans les compètes où ça gagne, je sais ton raisonnement est pas faux, mais dans les compètes où ça gagne, c'est parce que les un ou deux meilleurs joueurs sont là du début à la fin, simplement. Donc cherche pas des remplaçants. Si ces deux-là sont très forts en ce moment et que le salut de l'Allemagne passe par eux, que les Allemands, les protègent et fassent en sorte qu'ils soient bons sur trois matchs de poule et huitième, quart.
La poule de l'Allemagne.
Plus loin, quoi. Tu vois, c'est
Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse.
Ouais. Alors la Suisse était une vraie purge ce soir en Irlande, mais une purge de ces purges. La Hongrie, comme d'habitude, à 11 derrière avec leur 3-5-2, puis ensuite ils essaient des contres, et puis l'Écosse, je ne regarde pas cette zone européenne.
Oui, on en parle dans un instant, c'est une dépendance de Julien Laurence. Un mot rapide sur les Pays-Bas, tu dis comment Polo ce soir?
Si tu ne la regardes pas, elle te regarde, Polo. Attention.
Oui, mais je sais.
Attention.
Est-ce que c'est l'Europe, Polo, après tout?
Ouais, en fait, moi, alors il a fait beaucoup de turnovers très importants, Koeman. Et si tu veux, là, il a joué dans une défense à 3. Ils sont capables de jouer plutôt en 4-3-3 version Ajax. Mais en fait, j'ai le sentiment que l'équipe néerlandaise était en avance dans son projet pour l'Euro par rapport aux Allemands. Par contre, quand les Allemands jouent au ballon, ils sont supérieurs aux Néerlandais, sauf qu'ils peuvent pas le faire pour le moment pendant 90 minutes. Mais ça va pas être une équipe facile
pour l'équipe de France. Ouais. Exactement.
Il y a beaucoup de talent quand même.
Polo, merci.
Merci à vous.
Bonne soirée à toi. Apparition 10 minutes remarquées dans l'after, comme souvent. On te retrouve dans la semaine et plus sûrement lundi soir avec les drôles de dames. Excellente soirée à toi. J'accueille Julien Laurence. Bonsoir Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Julien qui aura donc son Angleterre à l'Euro, sa dépendance Écosse, mais pas une deuxième dépendance, c'est Pays de Galles. Le Pays de Galles éliminé au tir au but par la Pologne, mon cher Julien. On a vu d'un œil le match pendant la soirée de l'équipe de France. Est-ce que ça te semble normal, usurpé ou pas, mérité pour la Pologne? Quel est ton regard?
Non, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose entre les deux équipes, sincèrement. Le Pays de Galles à domicile, qui a été dangereux sur coup de pied arrêté notamment, qui aurait peut-être pu marquer. La Pologne qui n'a pas fait grand chose avec le ballon non plus, qui a d'ailleurs affrontera donc la France lors du troisième match de la poule, puisque c'est le vainqueur de ce play-off là qui sera dans la poule des Bleus. Vraiment, même avec Lewandowski qui a été très discret, même avec Zielinski qui a pas été très bon non plus, qui est même sorti avant les tirs au but d'ailleurs, c'est pas génial la Pologne non plus, mais le Pays de Galles était pas génial non plus. Mais c'est vrai qu'il y a de la jeunesse, il y a un peu d'enthousiasme, mais c'était un match très fermé, très serré.
Et puis tout le monde avait les jetons en ce match.
Oui, tu l'as senti pour la prolongation, ouais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr que tout le monde attendait que les tirs au but après. Et puis au final, ça joue sur voilà, Chesney, Kiefer Moore, tout ça. Donc c'est, oui, ça joue peut-être un petit peu à l'expérience, c'est sûr, au niveau des tirs au but. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose entre les deux équipes, pas beaucoup de différence. Et c'était pas un match génial, et c'est pas deux équipes géniales non plus.
C'est un petit coup d'arrêt pour le Pays de Galles, hein, qui avait fait demi à l'Euro 2016, huitième de finale en 2020, qui a participé au dernier mondial, et qui ne sera pas donc à l'Euro 2024. Voilà.
Ouais, c'est dommage. En plus, ils ont une belle génération qui arrive chez les jeunes, mais même chez les plus jeunes, parce qu'ils vont se qualifier pour l'Euro 21 l'année prochaine. Ils sont à l'Euro des U17 aussi. Donc, ils ont vraiment des belles générations. Ça travaille très bien chez les jeunes, notamment, et ça arrive après chez les A aussi. Mais là, il a manqué un petit truc dans la phase de poule, enfin, dans leur groupe, avec la Croatie. Ils avaient battu la Croatie. Ils avaient fait machiner en Croatie aussi. Ça s'est pas joué à grand chose pour se qualifier directement. Et puis, au final, voilà, là, ils sont un peu courts ce soir.
Voilà, on arrive à un moment important, toujours attendu dans l'after, où Julien va nous parler du Sylvain Ripoll anglais. Angleterre, Belgique, deux partout. Mais alors, merci Jude Bellingham, Julien. Les Belges menaient 2-1, doublé de Tielemans. Tony avait égalisé à la 17e et à la 95e minute de jeu, dans le Bellingham Time, les Anglais ont évité une deuxième défaite consécutive à Wembley.
Ouais, ça aurait fait tâche, deux défaites de suite. Là, ils méritaient vraiment pas de perdre. En plus, autant contre le Brésil, on les avait critiqués à juste titre, et surtout le Sylvain Ripoll anglais. Ils avaient vraiment pas été bons, ils auraient dû perdre 3-0. Autant là, ils ont vraiment été meilleurs. Une équipe de Belgique, j'ai trouvé très, très décevante, même si elle a mené deux fois au score sur deux erreurs anglaises, une de Pickford, une de Dunk. Mais je sais pas, moi, elle m'inspire pas du tout, cette équipe belge. Encore moins quand Kevin De Bruyne n'est pas là, comme c'était le cas ce soir. J'avais vu le 0-0 contre l'Irlande samedi soir aussi. C'était assez, c'était très, très moyen encore. Mais les Anglais, ont beaucoup, se sont créés des occasions, ils ont bien attaqué. On a enfin vu le petit Kobbie Mainoo dont on parlait lundi soir dans l'after, qui aurait déjà dû être titulaire contre les Brésiliens, qui a fait une saison fantastique avec United et qui a enfin eu sa chance là comme titulaire. Lui avec Bellingham et Rice au milieu, c'était vraiment très intéressant. Foden un petit peu électron libre. Et après, sans Saka, Bowen a fait plutôt un bon match. Sans Kane, Tony a été ok, on va dire. Mais voilà, les Anglais méritaient mieux, méritaient de gagner même. Donc c'était déjà beaucoup mieux que par rapport à ce qu'on a vu contre le Brésil samedi dernier. Et au moins, ils ont évité la défaite. Mais c'est un peu plus rassurant et je continue de le maintenir. Hein. Si Southgate fait rien de stupide à l'Euro, ils ont vraiment une belle chance de l'emporter. Mmh.
Voilà pour l'Angleterre, tiens, un score hein, spectaculaire entre l'Espagne et le Brésil, 3-3 dans ce match amical. On a donc tous les sélectionnés pour l'Euro 2024. Tiens Julien, tu vas jouer avec nous, avec Stéphane et Daniel. Je vais égrener les groupes, vous allez me dire qui sort de ces poules. C'est un jeu hein, qui vaut ce qu'il vaut, hein, à 80 jours de l'Euro.
On a compris.
Vous êtes friands les amis. Groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse.
Allemagne, Écosse.
Stéphane.
Moi aussi.
Pareil.
Ok, on avance. Allemagne, Écosse en 8e de finale. Groupe B, Espagne, Croatie, Italie, Albanie.
Italie, Espagne.
Moi aussi.
Et pour pas dire pareil.
Dans cet ordre-là.
Espagne, Croatie.
Dans cet ordre-là.
Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre.
Angleterre, ok. C'est quoi, t'as dit Slovénie,
Serbie et Danemark.
Et Danemark. Angleterre et Danemark.
Moi, c'est Stéphane, c'est ce que j'espère.
Groupe D.
Ouais, une petite Serbie, moi. Je te mets une petite Serbie.
Ah, Angleterre, tu mets une Serbie. Serbie.
Moi, je crois pas au Danemark, non.
D'accord. Groupe D. Pays-Bas, Autriche, France, Pologne. Attention. Pays-Bas, Autriche, France, Pologne.
Autriche et Pays-Bas.
Ah oui.
Oui.
Moi, je dis France. Pays-Bas, quand même, non.
Daniel. France, Autriche, moi.
Daniel, il dit Autriche, Daniel. Pays-Bas. Alors, le gars, hyper optimiste. <La provoque. rire> Je crois vachement dans l'équipe de France. Hein, c'est spectaculaire.
Pour l'Italie.
Non, mais là, c'est la provoque, Daniel.
Eh oui, oh là là.
Ouais, il dit oui, mais bon.
Non, vas-y.
Groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine.
Belgique et Ukraine.
Ça a l'air d'être un groupe en bois, mais en fait, c'est un beau
attention
groupe,
l'Ukraine.
Ça,
moi, attention,
ils
l'Ukraine.
Sont tous nuls.
Bah, je t'ai dit, moi, c'est tous l'Ukraine.
Ils sont tous nuls.
Belgique, Ukraine.
Non, c'est tous moyens.
Belgique, Ukraine.
Stéphane.
Ouais, j'espère aussi.
Groupe F.
Ouais, je pense que la Belgique, ils vont le faire. Hein.
Quand même. Oh. Aussi, ouais. Groupe F, Turquie, Géorgie, Portugal, République tchèque.
Turquie-Portugal pour moi.
Les Portugal et Géorgie.
De Villiers-Agnol.
Oui, bah oui, oui.
C'est le cœur qui parle.
T'es vraiment généreux, Stéphane. T'as de la famille en Géorgie ou quelque chose?
Oui, c'est bien. Géorgie, Ukraine, voilà.
Turquie, Portugal et Turquie.
Portugal et Turquie. Qualifiés pour les huitièmes de finale. Je rappelle qu'on aura donc quatre meilleurs troisièmes. Une belle consolante, hein, vous le savez. On jouera ce jeu plus tard, si vous voulez bien. D'accord?
Très bien.
Bon. Voilà, les amis, c'est terminé pour l'after du soir. C'est un petit jeu. Julien, merci.
Merci,
on te retrouve très bientôt. Bonne soirée à toi. Bonne nuit, à très vite sur RMC. Merci Stéphane. Merci Daniel. L'after est de retour demain dès 20h. Hein. Génération After et l'after dans la foulée. Ensemble jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous. Bye bye.